On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
On vous dit pastèque, vous entendez rouge, jus, croquant, pépin, soleil.
Bagdad, de mon enfance, des odeurs de pastèque mélangées avec les cardamomes et les melons, les persils, les curries, l'ail.
Le melon, on peut le saler, c'est incroyable. On peut le vinaigrer et après on peut le sucrer.
Sur le dessus de la pastèque, une fois qu'elle est rôtie, on va rajouter des petits morceaux de feta, des petits morceaux d'olive et des feuilles de marjolaine.
J'ai le souvenir d'enfance de petits melons éclatés sur la terre avec plein de guêpes autour. Et on savait que si les guêpes étaient là, ils seraient délicieux. Et ça se vérifie à chaque fois.
Vous n'auriez pas le melon?
On le caresse, on le soupèse, on le renifle, on lui tripote le pédoncule, on le croque à pleines dents, il nous arrive même de le prendre, le melon. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Le melon, c'est le ballon rond de la corbeille de fruits, c'est l'un de nos meilleurs amis en été et c'est le produit que l'on cultive, qu'on choisit, qu'on déguste et qu'on cuisine, sans oublier bien sûr sa cousine la pastèque, en ce dernier dimanche du mois de juillet. Deux invités pour en parler autour du plateau dont on va déguster. Tout d'abord notre chroniqueur du potager, Xavier Mathias, bonjour.
Bonjour.
Expert en maraîchage, formateur en permaculture, auteur de nombreux ouvrages sur le monde végétal. Et vous êtes arrivé avec des melons qui ne ressemblent pas aux melons tels qu'on le connaît.
Ah bah oui, c'est une, comme d'habitude. Hein. C'est
oui,
toujours
voilà.
au sein d'une espèce, d'un genre, et il y a toujours plein de surprises.
Vive la biodiversité au potager. Et puis un chef qui nous vient en direct de Cavaillon. Il a pris son train ce matin. C'est le fief français du melon, Cavaillon. Évidemment, on est dans le Vaucluse. Et ce chef entretient une relation passionnante avec le melon, je ne crois pas exagérer en disant qu'il lui consacre sa vie. Jean-Jacques Prévost, bonjour.
Régis, François Régis, bonjour.
Bonjour,
bonjour à tous.
Coiffé d'un Panama quand même.
Oui, même un si... faux Panama.
Voilà, un faux Panama, ah bon?
Oui, il est fabriqué avec de la... des algues de Bretagne.
Ah, je pensais que c'était...
Donc c'est tressé et mis sur la tête comme ça.
Je pensais que c'était en liane de melon. Votre restaurant étoilé, c'est la Maison Prévost à Cavaillon que vous tenez avec votre épouse Sylviane et votre fille Sandra Rose qui en est la sommelière. Vous êtes également chroniqueur chez nos amis et confrères de France Bleu Vaucluse.
Tout à fait.
Dans les fauteuils des chroniqueurs, Estherelle Payani et Dominique Hutin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Ça va les amis?
Très bien.
Estherelle, je sais que...
Ouais, moi je vais mettre le cap sur les balcons plutôt pour fuir le melon parce que non au melon mais oui au poivron.
Tout le monde n'aime pas le melon, y compris au sein de l'équipe dont on va déguster. On va essayer justement de vous convaincre de l'inverse, chère Estherelle. Dominique.
Moi je vais mettre de l'eau dans mon vin. Non, je blague. Je vais vous parler vin, bien évidemment, mais aussi au climat et donc de la nécessaire adaptation du vignoble aux réalités climatiques.
On vous retrouve tout à l'heure pour cette question brûlante, Dominique. Retrouvez nos coups de cœur, nos infos pratiques, nos recettes autour du melon et le podcast de l'émission sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Et si on allait d'emblée tâter le melon sur le terrain? Il s'épanouit dans les champs écrasés de soleil du sud de la France et notamment dans le Languedoc. Notre reporter Stéphane Combe nous emmène à Lansargue. On est à une vingtaine de kilomètres de Montpellier dans le département de l'Hérault. C'est là que Jean-Pierre Duez et Mohamed Dermoun cultivent 20 hectares de melons en agriculture biologique. C'est parti pour une virée bucolique aux portes de la Petite Camargue.
Il y a ces odeurs qui sont sympathiques, qu'on retrouve chaque année. Un oiseau qui vient de passer au-dessus de nous, on est près des marais de la Petite Camargue. Ce vert aussi, ce vert de melon, je sais pas, ça me fait quelque chose. C'est du vivifiant, c'est du vivant. Le melon, c'est une plante qui est rampante, qui s'étale sur à peu près 1,50 m de large. Il y a plein de ramifications, tu vois, ben voilà, on voit les... diverses tiges, t'as une tige principale et puis plein de tiges secondaires, puis sur chaque plan bah, y a 5-6 melons.
Jean-Pierre, toutes les personnes qui sont en train de ramasser les melons là, derrière ce tracteur qui avance très lentement entre les différentes rangées de melons, tous vos employés ont une espèce de bâton.
Ça fait une fourche qui permet d'écarter le feuillage, puis on regarde les melons qui sont sous les feuilles.
Alors, voilà. Je ne sais pas comment vous faites pour faire la différence entre les melons qui sont bien mûrs, qu'il faut récolter, et ceux qu'il faut laisser.
Regardez, pour moi, ça, c'est un melon. Il doit attendre encore 3-4 jours. Il est blanc. Pour moi, il n'est pas mûr.
Ah oui.
Il y a la couleur. On voit la différence quand même. Hein.
Les traits qui sont au milieu sont encore bien verts.
Là, pour moi, je fais la différence. Moi, juste aux yeux, ben, je passe. Je vois que celui-là, il est mûr. Celui-là, pas encore. Il peut attendre. Donc, je coupe celui qui est mûr et j'avance. Au fur et à mesure, chaque jour, on récolte. Peut-être dans 3-4 jours, je passe. Celui-là, je le couperai.
Jean-Pierre Duez, là, on est au milieu de cette melonnière bio. En quoi c'est bio ?
Il ne faut pas qu'il y ait des produits pesticides. Voilà. Comme à l'ancienne, l'herbe, on le fait à la main. Donc on passe chacun dans la rangée, on prend une vingtaine d'orangers, on enlève l'herbe et regardez, à la fin il est sec, il est mort. Au niveau de la plante aussi, on coupe avec le sécateur. On essaye de ne pas arracher comme ça, la plante elle ne vient pas avec.
On tient compte de l'environnement. Ici, tu vois, il y a des marais tout autour, donc il n'y a pas de pollution externe. Le melon bio aime bien les terres un peu fortes. C'est des terres un peu fortes où il y a quand même de l'argile. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un petit peu de cailloux. Parce que les cailloux réchauffent la terre, là. Tu vois, ces petits cailloux, là, ça pompe la chaleur et ça le restitue. Et ça, le melon, il aime bien aussi. Et les abeilles sont indispensables pour qu'il y ait des melons. Sans abeilles, on n'a pas de melons. Je ne sais pas si on peut les voir, il y a des ruches qui sont là-bas. Parce que le melon, il a des fleurs mâles, des fleurs femelles. Et il faut vraiment l'intervention de l'abeille qui transporte le pollen sur la fleur femelle. Et là, un mois et quelques jours après la plantation, on commence à voir ces petits melons là comme des olives. C'est comme une nurserie, quoi. On voit tous ces petits bébés melons qui poussent. Regarde ce petit melon vert là, comme il est joli. Ça, c'est des melons charentais jaunissants. Oui. Hein, c'est principalement le melon qui est cultivé en France et qui est commercialisé à peu près à 95-98%. C'est ce type de melon. Le melon charentais, il a des arômes qui flattent le palais. Ils ont quelque chose en plus, c'est que du sucré. Il y a autre chose avec. Quand on boit un petit porto avec, ou même un petit muscat de Lunel, ça fait quelque chose dans la bouche. J'aime bien ça, moi, ce mélange. Il y a le charentais vert, c'est-à-dire c'est un charentais chair orange, mais qui ne jaunit pas. Ensuite, il y a le Gallia. Le Gallia, c'est un melon bien rond, jaune, brodé aussi, à chair verte. Qui est très sucré, mais il n'a pas ces arômes qu'a un melon charentais. Après, il y a le Honeydew, c'est un melon rond, tout blanc, mais la chair est verte, verte et blanche à l'intérieur. Ensuite, vous avez le Piel de Sapeau. Piel de Sapeau, ben, on en a planté un petit peu cette année. C'est un melon qui est vert un peu, avec des boursouflures sur la peau. C'est comme la peau de crapaud. Manque un petit peu d'arôme, quoi, pour nous.
Cette variété là, ça s'appelle du SV, et là on la ramasse par rapport à la bague.
Hein, Jean-Pierre, il pèse son poids, hein, Mohamed et Jean-Pierre, il pèse son poids, hein, ce melon. Alors en effet, là, il a une belle queue,
voilà.
Et puis il est un peu jaunâtre hein, sur les côtés.
Ouais, voilà. Et puis c'est vrai qu'il a du poids, les couleurs sont belles, et puis il a le cerne.
Au niveau de la petite queue, au bout du melon, en effet, il y a un petit cercle.
Ouais.
On va le couper, on va le goûter, celui-là.
Allez, on va le goûter, ouais. Oui.
J'aurais jamais mangé autant de melons sur le temps.
Il a mangé toute la production. Attention, toujours cette serre orange là, dense.
Ouais, il est beau.
Ouais, voilà, voilà.
Nous aussi, on va en goûter du melon. Nous étions en compagnie de Jean-Pierre Duez à la tête de son exploitation dans l'Hérault avec Mohamed Dermoun, son responsable de la récolte des melons. Toutes les informations sur cette exploitation sur franceinter.fr à la page on va déguster. Xavier Mathias, le melon que l'on connaît, c'est celui-ci, je le tiens à la main. C'est une sphère de la taille d'une balle de handball, hein, on va dire.
À peu près, ouais.
Avec une chair rose, orangée. C'est un peu le melon standard qu'on trouve sur nos étals. Au point que on oublie qu'il existerait une biodiversité dans ce monde des cucumis mello.
Voilà, c'est ça. En fait, un petit peu comme d'habitude, on a une lorgnette un petit peu étroite hein, quand même sur la diversité des plantes potagères. Et on s'aperçoit que dans le melon, quand on fouille un petit peu, Il y a vraiment une grande diversité. Alors, on connaît le melon musqué, voilà, Cantaloupe incis, en fait. Quel melon Cantaloupe, donc le plus fréquent, Charentais. En fait, le Charentais est un Cantaloupe. Et c'est lui qui est vraiment sur tous les étals. Mais il y en a plein de différents, bon, dont les anciens melons brodés, alors qui n'ont pas la même saveur. En fait, nous, on a associé à melon un goût très sucré et cette espèce de parfum, moi, je ne sais pas comment le qualifier, un peu éthylène, en fait.
Oui, un peu banane.
Oui, voilà, éthylène en fait, et qui peut aussi incommoder hein, quand même pas mal.
Bah, à commencer par votre voisine Estherelle Payani, voilà. Qui lui reproche justement ce parfum.
Et alors justement, j'ai plein de bonnes nouvelles pour Estherelle, puisque les melons Piel de Sapo, dont on parle dans le reportage, là, les melons qu'on cultive pas mal en Espagne, un peu comme à la façon des courges en fait. On va les récolter avant les geler, les conserver longuement, nous on les mange à Noël. Moi je les adore à Noël, et ça n'a pas du tout cette saveur éthylène. Et alors celui que je vous ai apporté...
Et là, juste une chose, excusez-moi Xavier, celui qu'on appelle le melon d'Espagne, c'est donc à la base il peut être jaune ou on l'appelle aussi melon canari, parfois même melon d'eau, c'est un melon avec une écorce jaune et un peu ridée en forme de ballon de rugby, on est d'accord ?
Alors ça c'est pour le canari, mais le piel de Sapo il est pas comme ça.
Il est vert.
Voilà, en fait on a affaire un peu à des gangsters je trouve qui se sont attribués des noms qui se les bloquent à eux et nos noms de variétés ou de types ou d'espèces ont été repris à des buts commerciaux uniquement et là ça nous a un petit peu tout mélangé, c'est pas si simple de s'y retrouver en fait. Alors, on peut par exemple, dans les Cucumis Melo, on a le Flexiosus, celui qu'on appelle aussi concombre serpent. Alors voilà, pour ceux qui sont...
J'adore.
Ah, voilà, c'est très très bon. Les Québécois disent de ce type de concombre, de melon donc, hein, en fait, hein, qu'ils sont croustillants. Et c'est vrai qu'ils sont même pas croquants, ils sont croustillants.
Donc, il y a vraiment une parenté assez proche entre les concombres et les melons.
Voilà. Évidemment. Plus qu'entre les concombres et les pastèques, en fait.
D'accord.
Même genre, Cucumis... et espèces différentes, melo ou sativus. Mais effectivement, c'est des cousins très très proches. Et c'est pour ça que au niveau de nos bases historiques, c'est assez compliqué, parce qu'ils ont été longuement confondus, jusqu'à en fait l'arrivée du Cantaloupe d'Italie. Alors lui, on peut... Oui, effectivement, il est très très distinct d'un concombre. Sa saveur est vraiment mais très très particulière. Et là, cette chair musquée qu'on a, là, fait qu'il n'y a plus de confusion possible, en fait.
C'est ça. Famille des cucurbitacées.
Voilà, c'est ça.
Bien entendu, mais des cucurbitacées qui viendraient du continent africain.
Voilà, c'est ça. Ça arrive d'Afrique. Melon et pastèque nous arrivent d'Afrique tous les deux.
Ouais. Jean-Jacques Prévost, est-ce qu'un melon... C'est forcément celui qu'on trouve à Cavaillon, c'est-à-dire ce fameux melon sphérique avec sa chair rose-orangée, ou ça peut être le melon à écorce jaune en forme de ballon de rugby, avec une chair beaucoup plus verdâtre, très juteuse, très rafraîchissante?
Non, non, pas du tout. Le melon que l'on trouve à Cavaillon, c'était d'abord un melon à chair jaune-orangée, un melon rond, légèrement ovalisé, mais légèrement, c'est de la famille des Charentais, évidemment, faut pas l'oublier. Donc ça vient toujours le Cantaloupe qui est arrivé par les papes, au 12e, 13e siècle. Et puis, on a un seul melon.
C'est ça.
Le melon dit tranche. Et ce bon melon goûteux, avec chair très ferme, croquant et juteux.
On va justement découvrir l'aventure du melon de Cavaillon avec vous, Jean-Jacques Prévost. Vous y tenez un restaurant étoilé, vous venez de là-bas. Le melon de Cavaillon, c'est peut-être bien le melon le plus connu de France. On va comprendre pourquoi dans un instant. Camille Blanès réalise nos émissions d'été. Clément Berman à la technique, Nadia Chougui pour la préparation de l'émission. On évoque tous ces sujets, melon, pastèque et autres cousins, après le choix de Djoubaka Massaï de Mathieu Chédid, qui invite sa fille Billy Chédid, âgée de 17 ans, sur son nouvel album. Bel été sur France Inter.
Tu penses à quoi? Aux rêves inutiles. Loin d'être sage, je songe comme un singe des villes. Tu penses à quoi? Ému par l'univers. Quand ma vie danse en transe au bras de l'enfer. Miroir. subtil, fatal, ce regard sans âge qui résonne millénaire des visages. Mais soleil, ces histoires, ma soleil, et tous ces visages, ma soleil, si souvent. Cette vie toxique, je m'envole dans les airs. Béton armé dans une armure amère, vague nausée, fébrile, fidèle, éphémère.
Alexandre Dumas aime tellement les melons, mais vraiment à un point fou, qu'il offrira à la commune de Cavaillon l'intégralité de ses œuvres littéraires, soit environ 400 livres, ce qui n'est pas rien, contre une rente viagère. Il percevra de 1864 à sa mort en 1870 12 melons par an.
Oui.
Le jour de la signature du contrat, en présence de toutes les autorités civiles, religieuses et militaires du département, Alexandre Dumas se contentera de quelques mots pour remercier la population. Il dira, je le cite, « Jamais un auteur ne fut aussi bien payé pour la somme de son travail. »
On va déguster ce mets à l'heure d'été.
Vous avez reconnu la voix d'Alain Baraton, monsieur Jardin de France Inter, qui racontait la melomanie de l'écrivain Alexandre Dumas, auteur du Grand Dictionnaire de Cuisine. D'ailleurs, Alexandre Dumas, dans le Grand Dictionnaire de Cuisine, recommandait de servir le melon. Je ne sais pas si notre chef Jean-Jacques Prévost est d'accord avec lui. Servir le melon entre le potage et le bœuf ou entre le fromage et le dessert. Un peu comme la poire.
Oui, parce qu'en fait, ils utilisaient le melon comme un légume. Parce qu'en réalité, c'est un légume. Donc, il n'était pas sucré. Donc, on l'utilisait nature, bouilli,
oui.
Ou à servir avec une viande de veau, un pot-au-feu, voilà. Ou rôti, tout simplement, avec un morceau d'agneau.
L'histoire de votre restaurant à Cavaillon est d'ailleurs intimement liée à celle d'Alexandre Dumas. Expliquez-nous pourquoi. Elle a quand même un destin singulier, cette maison.
Justement, Alexandre Dumas revenait de temps en temps grâce au chemin de fer, parce que le chemin de fer venait juste de se créer dans le PLM, Paris-Lyon, Marseille ou Méditerranée, et il revenait souvent à Cavaillon. Et donc, il est venu dans cette maison, là où que nous avons acheté il y a 40 ans, il venait régulièrement acheter des melons, comme il allait chez le voisin aussi, hein, venait pas forcément chez nous. Donc, il a mis ses empreintes dans notre établissement.
Car la maison que vous avez fondée, ou le restaurant que vous avez fondé en 1981, est au sein d'une maison qui fut l'ancien comptoir des melonniers de Cavaillon.
Oui, tout à fait. C'est la première maison qui a été créée en 1866, avenue Verdun, qui était une maison très intelligente parce qu'ils avaient tout compris. Ils avaient compris que le chemin de fer était à 800 mètres et qu'il fallait faire venir les melons de tout le département pour envoyer les melons à Paris, en Belgique ou à la cour d'Angleterre.
Vous parliez de chemin de fer. C'est précisément, Xavier Mathias, le chemin de fer qui a décloisonné en quelque sorte le melon de Cavaillon. Il y avait une concurrence entre deux villages assez proches, Cucuron et Cavaillon. Il y a le chemin de fer qui a fait gagner, entre guillemets, un des deux villages pour justement permettre d'expédier toutes les récoltes de melons. Bah, c'est Cavaillon. Et puis Cucuron, le melon de Cucuron, on n'en entend plus trop parler.
C'est dommage parce qu'il est très beau, je l'adore.
C'est d'ailleurs pas la première fois que ça s'est produit, puisque les maraîchers franciliens, qui avaient vraiment une technique de production complètement démente, hein, 4 saisons de melons, hein, quand même, Cuchot, de Chassis, etc., ils se sont fait supplanter par les maraîchers Tourangeau. Et voilà, donc un petit cocorico pour notre Touraine. Mais effectivement, c'est ce que j'appelle les variétés du chemin de fer. C'est-à-dire que le fameux melon sucrin de Tours, c'était tout simple. Hein. On prenait 15 jours d'avance sur les franciliens. C'est tout, hein. 15 jours, 3 semaines, on arrivait avant, vive le chemin de fer. Alors après, peut-être qu'il y a une morale à cette histoire, puisque les Tourangeaux ont vaincu les Franciliens, mais les Tourangeaux se sont fait vaincre à leur tour par les gens du Sud, qui se sont fait vaincre par des gens encore plus au Sud, etc. Donc en fait, énormément de nos variétés sont des variétés totalement issues de l'histoire des transports.
Et puis l'histoire camembert, Dominique, aussi, c'est toute l'histoire, le camembert qui a conquis Paris et Napoléon III, parce qu'il se trouvait sur la ligne de chemin de fer.
Oui, mais je ne voulais pas tirer la boîte de camembert avant.
Non, il voulait absolument pas. Il fait jamais de tropisme normand, Dominique Hutin, jamais. En tout cas, au 19e siècle, des melons poussent un peu partout en France. Écoutez ce joli inventaire à la Prévert, il connaît ça par cœur, évidemment, Xavier Mathias. Sucrin de Provins, melon de Coulommiers, melon de Honfleur, melon blanc de Hyères, petit gris de Rennes, melon d'Antibes. Voilà, il y avait des sélections et des spécialités de melons un peu partout, hein, dans beaucoup de terroirs et pas seulement au sud de la France.
Voilà, et on serait un petit peu surpris hein, si on les goûtait maintenant. Surpris et déçus en fait, parce qu'on est tellement habitué au goût musqué des cantaloupes type charentais qu'on attribue au nom melon une saveur vraiment précise. Tous. Mais ces melons-là, on pourrait les trouver certains fades, certains sucrés, mais pas avec cette saveur typique de melon, etc. Donc, oui, des melons, il y en a vraiment. Voilà, celui que je vous ai amené, encore une fois, le Flexiosus, à goût de concombre.
Alors, il faut repréciser à nos auditeurs, puisque vous en parlez, qu'on a vraiment affaire à un melon très allongé.
Voilà.
Qui ressemble
à un concombre à s'y méprendre.
Exact. Ah, oui, carrément, à s'y méprendre. En goût, c'est un concombre en un peu plus sucré, ouais. Avec une chair extrêmement croquante.
Voilà.
Peut-être un peu moins juteuse que le concombre qu'on connaît.
Alors, nettement plus croquant. Il faut pas s'imaginer que melon, c'est forcément sucré et avec, je sais pas trop comment qualifier ce goût, mais je pense, pour moi, c'est éthylène. En fait. Hein. Voilà, il y a une diversité incroyable, notamment une diversité pour l'hiver, avec justement Piel de Sapo et des melons comme ça, qui sont très bons et qui s'améliorent à la conservation.
Justement, Estelle. À ce sujet, on a une question d'un auditeur, Alain Graillon dans le Var, qui nous parle d'un melon hérissé de pointe comme un hérisson, qui porte le nom de Kiwano. Oui. Est-ce que justement c'est un melon, c'est un concombre, qu'est-ce que c'est que ça?
On voit apparaître, c'est vrai, c'est un légume africain.
En fait, les kiwano, on les range dans le genre des concombres. Hein. Pour moi, c'est un des plus beaux légumes du potager. Je vous invite vraiment à en cultiver, ne serait-ce que pour la beauté du spectacle. On dirait une masse d'armes.
Mais décrivez-le nous surtout, voilà. Alors, une masse d'armes, c'est bien dit.
Ah oui,
hérissée de picots.
Ah oui, vraiment. On n'arrive pas à les avoir à maturité complète. Donc, en général, on les cueille quand ils sont encore assez verts. Je parle au niveau de la Loire. Hein. Mm-hmm. Et puis, ils mûrissent tranquillement. Alors, moi, j'adore ce fruit. Le problème, c'est la saveur. Voilà. Je trouve que ça n'a pas un goût excellent.
Il y a effet waouh quand on le voit, il est spectaculaire. Voilà. Mais en goût, c'est un peu décevant.
Il faut tout le talent d'un chef.
Alors, on ne va pas lancer à Jean-Jacques Prévost le défi de cuisiner le kiwano.
Non, je ne le cuisine pas du tout. C'est très difficile à déguster.
On va se contenter
déjà cru, en cuisine, c'est pas possible.
On va se contenter du melon avec vous, en commençant par trinquer avec mon voisin de droite à une boisson que vous venez de nous apporter.
Le mélanis. Le mélanis, c'est à base d'amandes, de melon et de fleurs de badiane.
Il y a aussi un petit peu de glaçon.
Beaucoup de glaçon.
Très froid. Beaucoup de glaçon. Hein.
Oh là là. Attendez, le mélanis, Dominique, qu'est-ce que vous y percevez?
Moi, je m'y suis essayé un petit peu à l'aveugle. D'abord, c'est très concentré, donc je plaiderais quand même plutôt pour une liqueur, c'est-à-dire une infusion plutôt qu'une distillation, d'une part. Il y a cette concentration. Il y a le chef qui a apporté sa pâte avec cette bille de melon qui est d'ailleurs plus fraîche que sucrée et qui va donner du peps à l'ensemble. Estherelle a relevé la dernière virgule qui est l'anis,
oui,
que trahit son nom d'ailleurs.
C'est pastis, là.
Hein. Oui. Très anisé aussi.
À nous sommes en Provence. Hein. On entend chanter les figales.
Hein. L'enfant illégitime du pastaga et du melon, en quelque
tout
sorte.
Tout à fait.
Pour autant, c'est pas extrêmement alcoolisé en termes de perception.
Non,
on doit être
très
à 18, 16, 18.
Exactement.
Voilà. Vous avez l'ambition de remplacer le trou normand ou un truc comme ça?
Mais ça remplace déjà depuis très longtemps sur les tables de Cavaillon.
Vous l'avez créé, cette boisson?
Ah oui, c'est une création. Le mélanis, c'est une création il y a bientôt 30 ans.
D'ailleurs, j'observe que vous avez banni les pailles en plastique, c'est bien?
Ah oui, depuis longtemps. Depuis longtemps.
C'est bien, on est sur
des vraies pailles en bambou.
Parfait. Ouais. Donc ça, c'est pour le mélanis. Ouais. Et le melon se décline vraiment à toutes les sauces, de toutes les façons, cuit, cru, en dessert, en entrée, absolument partout dans votre restaurant,
tout
surtout en saison.
Surtout en ce moment, oui.
Vous cultivez combien de kilos de melon par jour?
Je travaille à peu près 20 kilos de melon par jour. Wow. En cuisine, salé, sucré. on mange pas que du melon, bien sûr, dans ce restaurant, mais il y a un menu consacré à ce cucurbitacé magique, celui de Cavaillon.
Ça veut dire que vous devez aussi vous employer à recycler ce qu'on pourrait appeler les épluchures, l'écorce.
J'utilise tout dans le melon, je ne jette rien. De la graine, du jus de melon au cœur, auquel j'en fais des sauces sucrées, des ketchup de pépins de melon. Je fais énormément de recettes salées sucrées. Je fais même la peinture, parce que je peins aussi avec du sirop de pépins de melon que
j'ai. Figurez-vous que Jean-Jacques Prévost a inventé le mélonisme.
Eh ben moi, je prends un courant d'art, figurez-vous.
Mélonisme était un courant d'art, très surprenant, mais très, très joli. Voilà.
Ça consiste en quoi?
Non, mais il nous parle quand même d'œuvres d'art au camembert. C'est ce qu'on appelle des croûtes. Ah oui, c'est ça.
Super point pour le chef.
Oui, c'est ça.
Bravo.
Dites-moi une chose, Jean-Jacques. J'ai à ma gauche une fabuleuse fleur orangée constituée, j'imagine. Les pétales de cette sculpture végétale sont constituées de lamelles de melon assez fines. C'est très joli.
Avec des lamelles de haddock.
C'est ça qui est surprenant.
Voilà. Donc, j'associe la spécialité de la maison, c'est que j'associe l'iode avec le melon. Ça a été la grande curiosité dans les années 80. On m'a pris pour un fou. Et aujourd'hui, je fais un melon cuit au four avec une bouillabaisse de homard. Je fais un poêlé de rouget avec une tranche de melon aux épices. Voilà. Donc, cette rosace est somptueuse parce qu'elle est, c'est croquant et juteux. C'est fait la dernière minute. Et c'est ajouté avec une vinaigrette à base de jus de pépins de melon.
C'est ça.
Donc, on va ajouter du jus de citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre.
Donc, déjà, on vous confirme, chers amis, que ça marche très bien. Haddock et melon, on va goûter ça, justement. C'est assez étonnant comme accord. Et en même temps, comme marche bien le melon avec le prosciutto ou le jambon sec.
Tout à fait.
On peut se dire que le côté, la salaison, finalement, le haddock serait une salaison de la mer, en quelque sorte.
Oui, parce qu'il y a toujours un apport de sel, d'épices, comme le jambon. Le jambon, c'est les épices et le sel. Là, le haddock, c'est le fumé et le sel.
La recette, s'il vous plaît, de votre vinaigrette au jus de melon?
Alors, tout simplement, on presse le jus des pépins de melon dans un chinois. On obtient donc un jus très sucré. On y ajoute un jus de citron, du vinaigre blanc balsamique, du sel, du poivre. Et avec un fil d'olive, on monte avec un fouet. C'est tout simple et ça monte. Et comme c'est un liant naturel, parce que la pectine se trouve dans le melon, donc on retrouve le liant, le goût, et la couleur qui est très jolie.
Super belle idée, hein. Et le côté juteux et croquant du melon vient attendrir en bouche le haddock, ses chairs un peu plus fermes, ses notes fumées.
Je vais faire avec un smoothie de melon à l'hydromel, donc à l'alcool de miel, un petit peu de sel, de poivre et surtout un petit peu de lait.
Je trouve que c'est une très belle idée aussi de travailler les pépins, les graines. Oui. En fait, parce que c'est probablement l'origine de la culture du melon et des pastèques. Oui. En fait, les graines sont très très riches en lipides. Et en protéines, et c'est probablement pour ça qu'ils étaient cultivés à l'origine. Donc, à mon sens, c'est une très belle idée de dire, voilà, il n'y a pas de déchets dans des légumes, il n'y a que des ressources.
À part le cocktail à base d'anis et de melon signé Jean-Jacques Prévost, que se passe-t-il dans nos verres? La réponse avec Dominique Hutin.
On va déguster sur France Inter.
Dominique Hutin, à part faire des œuvres d'art au camembert, vous occupez aussi un peu de vin quand même.
Il faut que je justifie un peu mon salaire et ma peinture suffit pas à faire vivre mon foyer. Donc voilà. Alors je vous ai promis quand même tout à l'heure de mettre de l'eau dans mon vin. Évidemment, je blague, mais pas tout à fait parce que j'ai quand même choisi l'eau comme un thème transversal à partir de constats patents que voilà. Le melon et la pastèque, c'est 90% d'eau. Le vin, c'est 85% d'eau. Le corps humain, c'est 75% d'eau. Alors évidemment, à l'heure estivale, pour ne pas dire caniculaire, la question de l'eau prend un relief particulier et ça entre évidemment en résonance avec l'actualité climatique. Il faut savoir que dans le sud, les raisins ont grillé au sens premier, comme si on les avait passés au chalumeau. C'est vrai dans le Gard, dans le Languedoc, dans le Roussillon. Donc évidemment, on a une pensée pour ces vignerons qui se demandent bien de quoi demain va être fait. Alors, j'ai rempli les verres parce que évidemment il faut penser à se réhydrater un tout petit peu de temps en temps. Et pour examiner cette actualité brûlante, je vous emmène en Afrique du Sud. Alors pourquoi l'Afrique du Sud? Le melon et la pastèque sont originaires d'Afrique, mais aussi en Afrique du Sud a été installée au XVIIe siècle une viticulture par des Huguenots qui nous venaient de, attention, tatata, de Charente, on cause déjà melon, de Luberon.
Du Luberon, bien sûr.
Vous voyez. Et c'est un cépage chenin, ce vin. Et pourquoi le chenin? Et bien simplement parce que il fallait un cépage qui nous donne un petit peu de repères communs avec l'Afrique du Sud, mais aussi et surtout parce qu'il est protéiforme. Vous travaillez le melon en dessert, en entrée, en plat principal, etc. Eh bien, le chenin nous permet de faire des secs, des demi-secs, des grands liquoreux et même des bulles. Et puis aussi parce que le cépage chenin, c'est pas tout à fait neutre. C'est celui qu'on a implanté en Afrique du Sud pour lancer l'histoire du vin blanc là-bas. Donc, c'est un vin du Swartland, c'est à l'ouest de l'Afrique du Sud, mais il y a une petite coquetterie qui n'appartient qu'à moi, parce que je suis le seul détenteur de l'étiquette. C'est un 2019. 2019. Voilà, ce qui veut nous dire que hémisphère sud, les vendanges commencent en début d'année. C'est une mise en perspective un peu d'autres réalités. Alors, une bouteille seule, ne pouvant prétendre à la réhydratation que temporaire finalement, et pas à la résolution des problèmes sur le long terme, je me suis tourné vers un analyste, un spécialiste de l'adaptation de la viticulture au changement climatique. Et je l'ai rencontré à Angers. Alors pourquoi Angers ? Parce qu'il est enseignant-chercheur à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Et j'ai profité de l'événement du premier congrès international de ce fameux cépage Chenin pour lui poser des questions. Et vous allez voir, il va nous éclairer sur les dangers et notamment ce qu'est le stress hydrique, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce déficit d'eau. Il nous énonce quelques perspectives un peu radicales. Il s'appelle Étienne Lisling. Vous trouverez peut-être un tout petit accent parce qu'il nous vient d'Afrique du Sud.
Un des enjeux aujourd'hui pour les filières vitivinicoles, c'est de trouver à la fois des pratiques culturelles adaptées à la sécheresse ou même qui se posent à les territoires par rapport à la question des terroirs qui sont traditionnellement ont été des très bons terroirs et qui peuvent, dans un futur proche ou voire longtemps, devenir moins favorables et on peut avoir une restructuration au sein d'un territoire. Qu'est-ce que ça s'entend ? Ça s'entend qu'on doit travailler sur les pratiques qui permettent la vigne d'être plus résistante à la sécheresse, par exemple, de retravailler les notions de gestion de l'enherbement, la gestion du travail du sol. On peut aussi apprendre chez les pays qui produisent déjà du chenin, par exemple, dans les pays arides comme l'Afrique du Sud, comment les vignerons faire face à ces conditions encore plus arides qu'on peut connaître en Val-de-Loire. Donc, quelque part, on doit prendre conscience que la viabilité économique du territoire, elle dépend en fait de comment les vignerons vont faire face à ce manque d'eau qui a une incidence sur la qualité serre, oui, parce qu'on a un blocage de la maturation des raisins en situation de stress hydrique, mais ça juge surtout sur le volume produit et qui, pour un petit producteur, devient aujourd'hui un enjeu majeur.
Et voilà, des enjeux majeurs. Et vous l'avez entendu, planter la vigne ailleurs. Donc voilà, c'est quelque chose quand même assez radical. Et planter de la vigne ailleurs, c'est un engagement de 25 ans. C'est une génération. Donc il nous faut trouver des solutions qui soient à mettre en œuvre tout de suite. Il y a l'irrigation, il y a l'agroforesterie, planter des arbres, des pièges à carbone. C'est aussi vrai pour le tissu urbain. On en reparle en ce moment, pour faire baisser les températures. Et puis on peut aussi travailler le couvert végétal, et là je pense que Xavier, vous aurez des choses à faire valoir. On va semer des herbes entre les rangs de vignes, et on ne va pas les tondre, on va les plier pour les pincer, et tout ça va se décomposer en humus, qui va rendre le sol meuble, et le sol va absorber, stocker l'eau. Voilà les méthodes alternatives. Mais la vraie grande technique pérenne et efficiente pour combattre le stress hydrique, apporter de l'eau, c'est lorsque je chante, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Derrière mon bar, 30 ans de service, 130 milliards d'oses de pastis. Fier toboggan, roi de la descente, grands entonnoirs, gosier en pente. J'ai enterré bien des héros, pinardologues, as du goulot. Pour ma retraite, change de bocal, j'ai pris perpète en cure thermale.
Oui, il pleut, ça va pas tarder. On sait que le melon aime la chaleur, il en pousse d'ailleurs dans les dom-tom, en Guadeloupe, il y a toute une culture de melon charentais. Est-ce que le melon a besoin de beaucoup d'eau ?
Il a besoin d'un peu d'eau à un moment, et il a surtout besoin de quelqu'un qui va avec grande compétence, qui va suivre l'irrigation. Parce qu'il suffit d'arroser une fois de trop, il a plus de goût, hein, quand même. Donc c'est vraiment une irrigation complexe. Alors, vaut mieux arriver à un léger stress hydrique, sans mettre en danger la plante, que sur-irriguer. Moi, j'aime bien cette logique-là. Enfin, les producteurs en bio cherchent toujours à être au mini, mini, mini.
Jean-Jacques Prévost?
Oui, non, tout à fait. Le melon stresse. De toute façon, s'il a trop de mistral, trop d'eau ou pas assez d'eau, de toute façon. Donc c'est vrai, l'irrigation est importante. Nous, chez nous, on a beaucoup de chance. On a le canal Saint-Julien qui date du 12e siècle. On a une irrigation merveilleuse toute l'année. C'est fabuleux.
Très bien, on se retrouve dans un instant pour évoquer le sport national de l'été pour les gourmets, enfin sauf Esterelle Payani. Comment choisir le bon melon sans se planter, un melon qui a du goût. Il y a plein de légendes urbaines ou plutôt de légendes rurales. Il y a plein de petits trucs et de conseils populaires. On va essayer de les vérifier et de voir si ça marche vraiment. Juste après, The Thrill Is Gone par la Queen of Soul, Aretha Franklin. Ça date de 1970 et ça fait du bien. En plein été sur France Inter.
Thank you.
On va déguster sur France Inter. On prend le melon en ce week-end de chassé croisé entre juilletistes et haussiens. Peut-être d'ailleurs que vous êtes dans les embouteillages en train de fantasmer sur les recettes qu'on vous explique. Eh bien, on va vous réconforter si vous perdez patience avec une recette qui est en train de goûter Xavier Mathias, également Dominique Hutin. On va la surnommer Melon Miroir. Elle est signée Jean-Jacques Prévost, chef étoilé à Cavaillon dans le Vaucluse. Xavier Mathias, ça donne quoi? Ce sont des billes de melon.
Ça donne quelque chose d'extrêmement complexe, en fait.
Oui.
Il y a 1000 saveurs dedans. A priori, rapidement, je suis incapable de vous dire ce qu'il y a dedans. Tellement, alors, il y a la texture du melon, bien sûr, qui est super agréable, qui est bien mise en valeur. Il y a ce parfum d'éthylène qui est un petit peu derrière. Moi, ça m'arrange.
Moi, j'aime bien aussi.
Et après, mais c'est tellement complexe, c'est difficile à définir, en fait.
Il faut peut-être expliquer, ne serait-ce que la tête qu'a cette petite merveille, c'est que ça, une espèce de solide liquide. On a des billes solides de melon, et puis de liquide, et c'est justement, parce que c'est quand même, il faut le dire, assez concentré, cette partie
très
liquide. C'est le melon qui va se charger de donner pop, et puis il y a ce peps, et puis il y a une petite virgule à la fin.
Jean-Jacques Prévost, il boit du petit lait, là.
Oui, mais oui, parce que c'est fait à base de jus de pépins de melon. Encore une fois, on utilise le jus de pépins de melon.
Donc là, il y a des billes de melon que l'on peut mouler avec une cuillère parisienne.
Tout à fait.
Et oui. Qu'est-ce qu'on en fait de ces billes?
Alors, on les met de côté, mais par contre, on va presser le jus de pépins de melon et on va préparer un caramel. Un petit caramel, pas beaucoup. On va déglacer avec du jus de citron, du jus d'orange, du gingembre et on va rajouter le jus de pépins. Et on va laisser caraméliser tout doucement, dans 20-30 minutes. Et on va obtenir un miroir de couleur et de goût. On va filtrer et on va mélanger ce miroir de goût avec les billes de melon et macérer toute la nuit.
On nous demande à la maison, comment on fait un jus de pépins de melon?
Il faut avoir au moins deux melons pour obtenir le maximum de pépins. Et puis on va le presser avec une petite passoire qu'on a à la maison.
Petite précision quand même. Par pépin, vous entendez le cœur du melon. Donc c'est beaucoup plus générique. Il y a la chair.
Le chapelet du melon que l'on retire et qu'on va obtenir tout ce bon jus. À condition qu'on ait un melon lourd. Ça veut dire rempli de jus de melon sucré.
Vous anticipez sur les trucs qu'on va donner à nos auditeurs sur le choix du melon. Mais si vous voulez bien, on va quand même s'intéresser à une cousine, même si on va voir avec Xavier Mathias qu'elle est peut-être plus éloignée que ce que l'on croit, une cousine du melon qui est la pastèque. On retourne au champ pour s'intéresser à cette fameuse pastèque, on va la qualifier de poids lourd des fruits d'été. On retrouve notre producteur de melon Jean-Pierre Duez à Lanzarque dans l'Hérault pour une leçon de pastèque avec Morgane Stocker. Elle est ingénieure agronome sur l'exploitation.
Voilà, on est arrivé dans un champ de pastèques, mini pastèques, c'est-à-dire des pastèques qui font entre 1,5 kg et 2,5 kg.
Alors ce qui est extraordinaire, c'est que la pastèque, c'est quand même imposant, hein, ça fait quasiment la taille d'un ballon de football, hein, une belle pastèque. La plante en elle-même, c'est un tout petit peu plus haut que pour les melons.
30-35 cm, oui. Et puis normalement, c'est un peu plus luxuriant aussi que le melon.
Ah bah, c'est pas facile hein, d'atteindre la pastèque, il faut écarter les feuilles. Là, il y a 4 pastèques, ouais. 1, 2, 3, 4, il y a 5 pastèques. Hein.
Ouais, 5, 6 même là, tu vois.
Et on les voit pas très bien hein, dans le feuillage, les pastèques. Hein.
Il faut vraiment regarder de tout près pour la pastèque. Contrairement au melon, on peut le voir de plus loin à sa robe qui change de couleur.
Alors que vous disent ces pastèques
qui sont... On remonte la tige, et en haut de la tige, au moment où ça se raccroche sur l'axe des feuilles, on a toujours une vrille et une petite feuille. Et quand l'un des deux est sec, c'est là qu'on sait que notre pastèque est mûre.
Ah bah là, c'est le cas.
Là, c'est gris, donc celle-là, on peut la couper et la récolter.
Allons-y.
Donc, on coupe toujours à ras de la pastèque, sinon le pédoncule abîme les autres pastèques dans les palox au moment où on les ramasse.
Morgane, vous coupez la pastèque en deux.
Je coupe une tranche pour la goûter.
Elle est bien rouge. Hein.
Là, on a une pastèque assez rouge, pas du tout farineuse, donc on est au bon stade de la récolte. Et après, il faut goûter...
C'est divin. C'est juteux, c'est fruité, c'est plein d'eau, c'est désaltérant.
On n'a que les petits, tout petits pépins blancs qui sont facilement mangeables et on ne doit pas les enlever de la pastèque.
Ici, ça a été planté à quelle époque, Morgane, là? Mi-avril, non?
Mi-avril. Le but, c'est de ne pas arriver trop tôt en production non plus parce qu'on ne consomme pas de la pastèque s'il fait froid. Donc il faut qu'il fasse des temps comme en ce moment où c'est parfait pour manger de la pastèque.
Le melon, on voit à son allure extérieure s'il est mûr ou pas mûr, en fonction des différentes couleurs qu'il exprime sur sa peau. Mais là, la pastèque, c'est vert ou vert.
Là, il faut être patient, il faut remonter chaque tige de pastèque et regarder si la petite feuille et la vrille sont sèches.
Il faut qu'elle soit quand même... Tu vois, toujours pareil, des couleurs quand même assez soutenues. Si c'est un petit peu pâle, tout ça, c'est pas bon. Une couleur assez intense, dense, là, c'est une bonne pastèque.
On mange et en même temps, on boit. C'est ouais. D'une pierre deux coups.
Moi, j'avoue que j'en ai toujours une dans mon frigo le soir, où j'en mange un petit peu en rentrant.
La pastèque, telle qu'elle pousse en ce moment sur les terres chaudes du Languedoc. Xavier Mathias, notre pote du potager, auriez-vous l'amabilité de décliner en quelques mots l'identité botanique de la pastèque?
Ah oui, alors elle s'appelle Citrullus lanatus, donc c'est assez joli, un assez joli petit nom, moi je trouve. Donc c'est une cucurbitacée aussi, qui apprécie la chaleur, ça tombe bien comme elle est très rafraîchissante. Elle n'a pas connu un énorme succès hein, chez nous, on va la retrouver plutôt soit en Europe du Sud, soit en Chine ou au Maghreb, où là elle est énormément consommée. Mais je pense que le melon lui a fait un peu une mauvaise publicité. Le melon, il est tellement parfumé, il est tellement riche que la pastèque, elle
la
paraît
flotteuse.
Juteuse, voilà, ouais. Et elle nous semble aqueuse à côté. La pastèque, elle a le défaut, en plus, comparé au melon, d'avoir des graines incrustées. Les graines sont incrustées dans la chair. Le melon, elles sont très faciles à enlever. On peut en faire voilà plein de choses et on a goûté, c'est vraiment très très bon. La pastèque, faut s'entraîner à cracher. Hein,
C'est ça qui est bon.
Des pépins noirs, ou parfois ils sont blancs quand ils sont pas trop développés, donc ça peut passer, mais quand ils sont noirs et un peu résistants sous la dent, c'est plus compliqué. Vous aviez un proverbe à nous citer, Esther El Payani ?
Oui, en Italie, quand on mange une tranche de pastèque, parfois on la mange en maillot de bain, et on dit, avec la pastèque, mangia, bevi, et ti lavi le mani. Tu manges, tu bois, et tu te laves les mains, tout en un.
Enfin, tu te laves les mains quand elle est c'est un peu sucrée, ça finit par coller. Hein. Ça, je peux vous dire. Vous avez un super truc à nous livrer, Xavier Mathias, pour choisir la bonne pastèque. C'est vrai que c'est compliqué. Quand on est devant l'étal ou au marché, on veut ramener une bonne pastèque de 3-4 kilos pour la partager en famille. Comment la choisir pour qu'elle soit à peu près sucrée, juteuse?
En fait, j'ai un truc imparable qui m'a été appris par un vieil ouvrier portugais avec qui j'ai travaillé. Et c'est tout bête, hein, c'est le chant de la pastèque. Une pastèque quand
le
elle
chant est... de la pastèque.
Ouais, le chant de la pastèque.
Je ne savais pas qu'elle chantait cette pastèque.
Je vous assure que quand on est dans le champ pour aller choisir, on est vraiment ridicule. Il faut s'allonger au sol. Mmh. Il faut mettre la pastèque contre son oreille et la presser très fort. Alors comme si, voilà. Et là, quand elle est mûre, elle craque. Et
une pastèque... En fumant quelque chose ou pas?
Non, pas du tout. Non.
Et on craque.
Et alors, quand on la presse, elle craque nettement. Théoriquement, une pastèque mûre, quand on enfonce le couteau dedans, elle doit s'ouvrir.
Ah, elle craque, elle. Ouais.
Voilà, on ne l'ouvre pas au couteau. Le couteau, il est juste, on la coupe pas. On l'ouvre juste. Et je vous assure, essayez, c'est absolument imparable.
Alors, on colle, si j'ai bien compris, c'est un peu comme le coquillage avec la mer.
Exactement.
On colle son oreille sur la pastèque.
Ouais, et on l'entend craquer. Et effectivement, c'est imparable, cette technique-là.
Très bien. Moi, on m'a parlé aussi d'une technique qui consiste à tenir la pastèque d'une main, à la frapper de l'autre. L'intérieur doit sonner creux.
Oh, pauvre bête.
Oui, je sais pas si ça fonctionne vraiment.
Et le contraire du melon.
C'est-à-dire?
Ben, le melon, il sonne pas creux. Il faut qu'il soit plein.
C'est le contraire du melon. Vous avez tout à fait raison. Alors, transition toute faite. Jean-Jacques Prévost, vous choisissez une vingtaine de kilos de melon par jour, puisque c'est votre débit dans votre restaurant étoilé où il y a un menu tout melon. Comment on s'y prend pour que le choix du melon ne soit pas trop une loterie? Souvent, on dit, oh là là, non, ça a un goût de courge, c'est pas très sucré. Franchement, on voit les gens devant les étals en train de soupeser le melon, parfois de sentir son cul, si je peux me permettre.
Parfois même
de taper dessus. Il y a une technique idéale?
Ah ben, tout simplement, le melon, il faut qu'il soit joli, il faut qu'il soit gourmand, non, joli, bien galbé. Non,
c'est pas un truc, ils sont tous jolis, les melons.
Mais non, ils sont pas tous jolis. Il faut qu'il soit bien galbé, avec ses belles dites tranches, et il faut qu'il soit lourd.
C'est
10 tranches.
C'est-à-dire
comme des quartiers de mandarines bien distincts.
Tout à fait. Comment ça fait 10 tranches? Je ne les ai jamais comptées.
Si, entre 9 et 11 et 10, c'est beau. C'est un beau melon bien équilibré.
Vous êtes en train de nous dire que, alors ça on va quand même demander, je ne sais pas si Xavier Mathias est convaincu ou pas, si c'est de la croyance populaire. Vous êtes en train de nous dire que lorsqu'il y a 10 tranches sur un melon, que l'on peut compter puisqu'il y a les lignes plus foncées, quand il y a 10 tranches, le melon a plus de chances d'être bon que quand il y en a 9 ou 11.
On peut dire que c'est un melon qui va être de grande qualité.
Non, vraiment, Xavier?
Alors moi je demande qu'à être convaincu, au contraire, parce que moi je suis un peu comme Alfred de Musset, qui disait un melon c'est comme un ami, il faut en essayer plusieurs pour en avoir un bon.
C'est exactement pareil pour le melon.
Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Souvent, est-ce que le poids ça veut dire quelque chose?
Oui, bien sûr. Voilà, il y a le poids, il y a le pédoncule normalement qui est dit déhissant chez les melons.
C'est-à-dire
dire qu'il se décroche à maturité. Mais effectivement, là, je suis vraiment très curieux. Enfin, moi, j'ai tendance à aimer croire.
Mais
ça,
c'est par rapport aux pétales. Dans une fleur de melon, il y a 5 pétales et il y a 10 attaches pistillaires. Donc, c'est des attaches pistillaires qui vont former les tranches de melon.
Jean-Jacques Prévost, certains disent qu'il ne faut pas lui sentir le derrière, entre guillemets, mais plutôt, au contraire, le sentir au niveau du pédoncule,
oui,
que vous appelez d'ailleurs en Provence le pécou.
Le pécou. Oui, parce qu'en fait, si on regarde, si on va de l'autre côté, là, au mamelon, on va sentir la terre. Mm-hmm. Ben, c'est pas très intéressant. Tandis qu'en haut, on va sentir plutôt la lumière, le soleil, voilà.
Esterelle est en train de distribuer une drôle de purée rougeâtre couleur brique autour du plateau dont on va déguster, mais elle retrouve vite son micro.
On va déguster. Sur France Inter.
Donc là, j'ai même plus un aveu à vous faire, vous l'avez compris. Certains avouent, je suis noire et je n'aime pas le manioc. Moi, je peux enfin le dire, je suis provençale et je n'aime pas le melon. C'est en effet une triste histoire de poubelle estivale et de dégagement pestilentiel qui évoque très bien Giono d'ailleurs au début du Hussard sur le toit. En gros, pour moi, le melon, ça sent l'éthanol et le choléra.
C'est vrai qu'on dit que ça sent souvent la poubelle. Mais ça, c'est certainement les restes de melon. Crime. Non, mais c'est les restes de melon dans les poubelles d'été.
Cette odeur de fermentation, c'est terrible pour moi. C'est toute l'odeur de mon enfance dans les rues provençales. Donc ça sent le choléra, je crains comme la peste, et surtout dans mon frigo quand je l'ouvre. Parce que quand même, vous connaissez d'autres fruits, vous, qui sont capables de zigouiller d'indigestion, non seulement un empereur,
oui,
Maximilien Ier de Habsbourg, grand empereur du Saint-Empire germanique, mais aussi deux papes, Paul II et Clément VIII.
Avec des melons.
Avec des melons.
Oui, oui, oui. Il faut pas manger l'écorce peut-être.
Non, ils en ont trop mangé. Donc le melon avec modération. Et en tout cas, pour moi, le melon et le poivron ont un point commun indéniable. Beaucoup de gens ne les aiment pas. Ou en tout cas, toute une catégorie de la population se tient éloignée d'eux, souvent par peur d'embarras digestif.
Moi, perso, je suis pas copain avec le poivron, mais j'ai surtout l'image de ce poivron issu de cultures intensives, bourré d'eau, pas très digeste et avec pas beaucoup de goût, effectivement.
Mais quand même, c'est dommage, parce que ça en fait plus pour les autres si vous aimez pas ça, François-Régis.
Oui.
Parce que sans poivron, pas de piperade basque,
évidemment,
pas de pebronate à corse, de peperonate à italienne, de chouchouka. D'ailleurs, vous remarquerez que dans toutes ces préparations, le poivron est cuit et pelé. A raison, on a besoin de lui faire la peau pour qu'il n'ait pas la nôtre. D'ailleurs, évidemment, on connaît toutes les méthodes pour l'enlever. La plus connue, c'est de la faire griller, puis de le couvrir afin que sous l'effet de la vapeur, la peau brûlée saute comme un parchemin avec le petit goût fumé en prime qu'on aime bien.
Ah mais là, en revanche, avec un petit peu d'ail ciselé et un filet d'huile d'olive, j'adore le poivron confit au four.
Alors vous savez, vous pouvez aussi le monder comme une tomate, on n'y pense pas trop. Comme une tomate ou une pêche, tout simplement, plongée dans l'eau bouillante et puis dans l'eau glacée, ça se déshabille très très bien. Et même un économe bien affûté ou un rasoir à légumes pour le peler à cru, ça fait très bien l'affaire.
Le goût du poivron est aussi très variable d'une espèce à l'autre. Ça peut être doux, ça peut être un peu plus piquant, c'est une solanacée qui est cousin des piments. Hein.
Ben en fait, c'est normal, parce que poivron et piment, c'est carrément la même espèce botanique. Le même nom, le Capsicum annuum, ramené par Christophe Colomb. Et s'il a rapidement connu autant de succès, notamment en Espagne, c'est que Colomb l'avait ramené, non pas pour en faire un légume, mais pour remplacer le poivre, qui était très onéreux. Parmi les piments ramenés, il y en avait deux, toutes les tailles et de toutes les couleurs. Des petits piquants, des allongés, des verts, des jaunes, des rouges, des violets, des marrons. À force de sélection, on a constaté que plus c'est long, plus c'est gros, plus c'est doux.
Ah, j'ai eu peur de la
chaleur. Et voilà comment le poivre long s'est transformé en poivron, tout simplement. Bah, un poivron, c'est juste un piment qui se la coule douce.
Ah, pas mal. Très bien dit, très bien dit. Un dernier argument, chère Esterelle, pour nous convaincre de manger, de croquer du poivron.
Allez, le meilleur pour la fin, parce que vous allez tout de suite arrêter le jus d'orange. Là, tout de suite.
Et oui.
Quand vous saurez que 100 grammes de poivron, ça contient quand même 200% de vos besoins quotidiens en vitamine C. Ce qui explique que la première vitamine C isolée a été faite par un Hongrois, Albert Ziengyurgyi, et cette vitamine provenait du poivron. Il a même obtenu le prix Nobel pour ça en 1928. Au pays du paprika, ce n'est donc que justice. Le vrai pays du poivron, quand même, pour moi, en cuisine, c'est un peu plus au sud, dans les Balkans. Et c'est ça que je vous ai préparé, que je vous ai fait tourner, cette petite confiture qui va enchanter vos barbecues. C'est de l'aïjvar.
Quel bonheur.
De l'aïjvar, ou aïjvar, on prononce les deux. A-J-V-A-R.
Ça s'écrit pas comme ça se prononce.
Exactement. C'est une sorte de chutney compoté, relish, caviar à base de poivron rouge grillé, qu'on va faire compoter très 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 longuement, mais comme une confiture, ça peut cuire une heure, deux heures à feu vif à l'extérieur. Alors normalement ça se fait en septembre, quand les petits poivrons cornus sont vraiment bien bien mûrs, c'est la grande activité dans les Balkans quand on passe dans les rues, ça sent vraiment le poivron fumé grillé, mais vous pouvez le faire déjà maintenant, vous êtes encore à temps avec le barbecue, vous allez mettre illico vos poivrons à griller pour en faire cet après-midi, ça va vous occuper.
C'est fondant sous la langue, mais c'est quand même assez relevé là, on allume une cigarette, on fait sauter la maison de la radio.
On va dire que c'est effectivement un peu piquant, un peu pimenté.
Ça existe.
Est-ce que vous aimez? Vous aviez...
Oui, alors moi j'aime pas les barbecues, mais j'aime beaucoup ça. en fait. Alors,
ni poivron ni barbecue.
Alors moi j'aime beaucoup et je sais que le poivron ça marie très bien avec le melon.
Ah bon?
Vous voyez, on va se réconcilier avant la fin.
Moi je prends un gros poivron rouge, je l'évide et je fais une petite farce de viande avec du melon confit à l'intérieur et je le cuis à la vapeur tout doucement pendant des heures. Et quand il est froid, je tranche l'association du doux. Du poivron avec le melon, c'est une merveille.
Très bien, voilà une bonne idée.
Je vais finir par être convaincue de regoûter du melon. Donc ce petit caviar de poivron, vous pouvez aussi le faire avec de la tomate. Et souvent, ça s'adoucit avec un tout petit peu d'aubergine pour donner la bonne texture. Si vous voulez en faire à la maison, faites griller 3 poivrons et une demi-aubergine. Vous le hachez. Le vrai secret de la bonne texture de l'aïchvar, c'est d'oublier le mixeur et impérativement hacher au couteau ou sortir le hachoir à viande. C'est ça, en fait, la vraie bonne texture un peu compotée. Et puis, avec une demi-gousse d'ail, dans une casserole, pas une casserole trop étroite. Surtout, il faut de la surface d'évaporation. Et vous allez le faire cuire à feu doux, en touillant et en ratatouillant, en re-ratatouillant, pendant 45 minutes à 1 heure, jusqu'à ce que ce soit réduit compoté. Vous pouvez stériliser les bocaux, sinon c'est au froid une semaine. Et vous servez ça tout l'été, en tartine, en sauce.
De l'aïvar.
Concentré de poivrons à la mode des Balkans.
Un petit jet de citron dessus pour donner du peps.
Parfois, on donne quelques gouttes de vinaigre, mais ça dépend des recettes familiales.
C'est assez remarquable, la tartiner sur un petit toast, voire un petit toast taillé, moi, ça me plaît beaucoup. On est obligé de se quitter. Juste une question sur le melon de Cavaillon. Certains auditeurs nous précisent que le melon de Cavaillon n'est pas encadré par un signe officiel de qualité. C'est plutôt une marque commerciale.
Oui, tout à fait, c'est une marque commerciale. Nous sommes en ce moment avec l'INAO en train de déposer notre dossier pour l'IGP.
C'est ça, sachant qu'il existe quand même en France, précisons-le, 2 melons labellisés indication géographique protégée, IGP, le melon du Haut-Poitou et le melon du Quercy.
Et vous oubliez, François-Régis, le melon IGP de Guadeloupe aussi.
Eh oui, c'est vrai, le fameux IGP, melon de Guadeloupe, absolument. Merci à tous, chers amis, Jean-Jacques Prévost, Maison Prévost, à Cavaillon, dans le Vaucluse, on n'est pas très loin d'Avignon, une étoile Michelin depuis combien de temps?
7 ans.
Pour découvrir le melon dans tous ses états.
Avec plaisir.
Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fermé l'hiver? Vous cuisinez du melon confit?
On fait le gibier de la région, les champignons, on a une belle région de champignons également.
D'accord, donc vous avez cuisiné sans melon à disposition.
J'ai 48 ans de métier.
Très bien. Xavier Mathias, bel été?
Eh ben oui, en espérant qu'on ait un petit peu d'eau quand même qui arrive, parce que là on l'attend.
Pour les nappes phréatiques, et on se retrouve, cher Xavier, à la rentrée pour d'autres émissions autour des fruits et légumes de saison. Merci beaucoup, toute l'équipe dont on va déguster part en vacances, mais l'émission On va déguster continue pendant tout le mois d'août. Le samedi à 11h, On va déguster poursuit son tour du monde de la cuisine, avec samedi prochain une escale en Irlande. Vous vous souvenez, Esther L, ça vous dit quelque chose?
Oh oui, de l'Irish Bread, on s'était régalé sur cette émission.
Absolument, et vous découvrirez le lendemain, le dimanche 4 août, une émission sur la passion française pour les vins rosés. On se retrouve le week-end prochain, si vous avez encore faim.